Bonjour à tous. Militaires, de loisirs ou professionnels, les drones envahissent le ciel, particulièrement en France, premier marché européen pour ces aéronefs sans pilote. En 2015, le chiffre d'affaires du secteur s'élevait à 155 millions d'euros. Il devrait doubler d'ici 2020. Les drones de loisirs tenaient jusqu'ici le haut du pavé avec des appareils peu coûteux permettant à monsieur tout le monde de s'adonner aux joies du pilotage. Mais ce marché arrive progressivement à saturation. En revanche, les drones professionnels sont de plus en plus compétitifs dans de nombreux secteurs. Inspection des bâtiments de grande hauteur, surveillance policière, assistance aux agriculteurs, les applications semblent presque infinies. Même si pour certains pilotes d'avions ou d'hélicoptères, ou encore pour des personnes ayant en charge la sécurité publique, l'embouteillage du ciel peut constituer une menace. La foire du drone, c'est un reportage de Stéphane Combe diffusé le 27 novembre dernier. Dans cet univers aux frontières encore mouvantes, où se côtoient agents économiques, industriels et défricheurs d'avenir.
30. 20. Interception. Le magazine de la rédaction.
Je cherche un cache pour mettre sur mon smartphone et me protéger du soleil. Parce que quand on vole et qu'on n'a pas ce cache, on ne voit pas bien l'écran, donc on ne voit pas bien l'image que renvoie le drone.
Bah écoutez, attendez, je vais regarder.
C'est pour un fantôme 3.
Ouais, bah, 5.5.
Je suis Jean-Michel Normand, je suis journaliste au Monde. J'ai créé un blog qui s'appelle La Foire du Drone parce que j'ai découvert le drone il y a 2 ans. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que c'est un appareil qui est très transversal. C'est-à-dire qu'on va parler d'économie, on va parler de société, on va parler de loisirs. On brasse énormément de choses quand on parle des drones parce que le drone est un instrument qui est en train de rentrer dans notre quotidien, qui est en train de bouleverser un certain nombre de professions. Et c'est intéressant et varié d'écrire sur cette matière-là. Alors on se trouve ici dans un magasin spécialisé dans les drones à Boulogne-Billancourt. Là c'est un magasin qui fait plusieurs marques, donc les gens se retrouvent, les gens se discutent avec les vendeurs, parce que quand on a un drone, il y a toujours une hélice qui est cassée, il y a toujours c'est important d'avoir ce lien-là, et puis surtout la technologie évolue tellement vite qu'il faut un peu avoir des explications, surtout qu'on commence à s'approcher de la période des fêtes. C'est le cadeau un peu qu'on fait. Il y en a eu 300 000 qui ont été vendus l'année dernière. Cette année, on devrait friser les 400 000. Tout le monde ne va pas adopter ce loisir-là parce que c'est pas très très facile au début de faire voler un drone.
On va commencer par le premier prix. Un drone qui fait à peu près une dizaine de centimètres de moteur à moteur.
Alors faites-moi une démonstration.
Voilà, petite, je ne sais pas si effectivement, donc on décolle. Et là, tout de suite, on tient. Voilà. On essaye de ne plus trop de batterie. Hein.
Jean-Michel Normand, ça, c'est un drone jouet. Hein.
Oui. Quand on reste dans ces petites machines, on va de 49 à 250 euros.
Et il y a des drones dans cette boutique qui sont un peu plus chers?
Oui, qu'on a en vitrine. Voilà. Donc ça, on est sur un tarif de 1000, entre 1400 et 1600 euros.
Alors,
un peu moins de 2 kilos.
Et surtout, ce drone-là, il a une caractéristique assez étonnante et nouvelle, c'est qu'il est capable de s'arrêter devant un obstacle. Ce drone-là est un drone considéré comme un drone de loisir, essentiellement acheté par des particuliers. Mais la frontière entre les particuliers et les professionnels, elle est de plus en plus poreuse. D'abord, des professionnels peuvent l'utiliser. Un agent immobilier va l'utiliser pour prendre des photos d'un certain nombre de propriétés qu'il veut vendre. On peut l'utiliser effectivement pour surveiller un chantier. D'autres drones, bah, comme celui-là, on voit la grosse valise. Hein.
Alors là, c'est une très très grosse valise noire.
Une grosse valise noire qu'on ouvre.
Elle est énorme, hein, on dirait une valise pour partir en vacances. Ah oui, voilà. Et à l'intérieur,
il y a une bête.
On dirait une machine d'un film de science-fiction. Là.
Et ce qui est étonnant, c'est que cette grosse bête, elle est extrêmement facile à piloter. On peut même ne pas la piloter, c'est-à-dire programmer un certain nombre de points par le GPS et le drone va aller tranquillement de l'un à l'autre. Ce qui signifie par exemple que pour un certain nombre de métiers, eh bien, il y a peut-être un petit peu de préoccupation à avoir. Aux États-Unis, on considère que les géomètres, par exemple, sont une profession qui va plus ou moins disparaître à court terme parce qu'avec un drone comme celui-là, vous pouvez faire une cartographie 3D en très peu de temps, quelques minutes, qui sera réalisé en plusieurs heures, voire plusieurs jours, par des géomètres, avec une moindre précision. Donc il y a un certain nombre de professions qui vont devoir s'adapter, parce que les drones vont faire leur travail.
Au revoir.
L'exploitation d'un drone peut paraître parfois insolite, mais elle est souvent d'une grande efficacité. Durant l'été 2016, à Biscarrosse, les maîtres nageurs sauveteurs ont bénéficié de l'aide d'un drone qui vole au secours des baigneurs en péril. Au mois de septembre dernier, les maîtres nageurs de la station balnéaire du Vieux-Boucau, dans le département des Landes, testaient cette machine conçue par la société TerraDrone.
Je suis vraiment désolé pour mon retard.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, alors. Allez, on sort la bête.
Ah. Je vais prendre ça. Non, c'est devant. Je vais se prendre la batterie, s'il te plaît.
T'as deux batteries, hein ?
Deux. Bonjour.
Bonjour.
Anthony.
Bonjour.
Enchanté.
Philippe, moi je te mets un sauvetage côtier.
Daniel.
Anthony, donc, cofondateur de la société avec le drone.
Okay. Daniel Balestra, vous êtes le président du club de sauvetage côtier Waitete Messanche Sauvetage Côtier.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le lieu où on se trouve?
L'environnement, nous sommes au lac de Vieux-Boucau-Souston, port d'Albret. Donc c'est un très beau lac marin qui a une ouverture sur l'océan avec une belle île au milieu. C'est un lac qui doit faire une dizaine d'hectares. Après, c'est un coin où on se réfugie, nous aussi, en hiver, lorsque l'océan n'est pas fréquentable pour les entraînements. Mais on vient s'entraîner ici, sur le lac.
Allez, tiens, Geoffrey. Ouais. Voilà la manette du drone. Donc,
parfait.
Du coup, on va poser le drone au bord de la plage. On va l'équiper de sa bouée. Comme ça, il sera prêt à partir. Hop. Donc, on libère le système de crochet. On vient verrouiller la bouée sous le drone.
Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce drone qui a une couleur rose bonbon, hein ?
Exactement. Alors, il a une couleur rose. Aujourd'hui, il est un peu dépeint parce qu'il a été utilisé tout l'été à Biscarrosse. Donc, il a pris le soleil. Mais normalement, il est rose fluo, très flashy. Parce qu'il s'avère que le rose, c'est la couleur qu'on voit le mieux en mer. Alors, les performances aujourd'hui, on est à peu près à 20 minutes d'autonomie dans les meilleures conditions. Et ensuite, on décolle donc très rapidement parce qu'il se prépare en à peu près 30 secondes. Et on part légalement au-dessus de la plage, on part à 50 km/h aujourd'hui parce qu'on est bridé, donc on bride le drone au-dessus de la plage. Et ensuite, ses capacités maximales, c'est près de 80 km/h.
Anthony Gavant, vous êtes l'un des concepteurs de ce drone. Comment est née l'idée de fabriquer, de mettre au point un drone qui est destiné à faire du sauvetage en mer ?
La nouveauté, elle est de créer ce drone en adéquation avec les réglementations, en adéquation avec les sauveteurs, parce qu'on l'a créé avec les sauveteurs, etc. Et du coup, ça a permis d'avoir un drone qui était vraiment factuel, usuel, et qui peut être utilisé.
Là, je regarde sous le drone, donc il a quatre pattes, hein. En fait, on dirait une grosse araignée. Hein. Il a quatre pattes, et puis il y a une petite caméra dessous, une petite caméra toute ronde. Elle sert à quoi, cette caméra
En fait, le drone est équipé d'un module cinéma qui permet d'avoir une retranscription en très haute définition sur une tablette qu'utilise le pilote, et qui permet du coup d'avoir un visu très précis de l'état de la victime quand le drone se positionne au-dessus. Après, le drone, effectivement, se pilote automatiquement. On peut lui faire tout un parcours, il va le faire tout seul.
Donc là, on est sur le sable, hein, sur la plage, sous les pins. On va le faire décoller.
Allez, on décolle, on s'écarte, attention.
The home point is take-off.
Mirador, Mirador, de poste de secours, tu me reçois, parle.
Oui, j'écoute.
Ouais, on a une victime, là, qui est à 300 mètres au large à peu près. Tu la vois, parle.
Oui, on l'a en visu.
Ok, elle est un petit peu loin, là, donc du coup, on va demander à l'équipe drone de faire décoller. Reçu ?
Oui, bien reçu.
Ok, t'envoies une nageur de pointe pour la sécuriser après l'arrivée du drone, et on reste en contact radio, bien reçu ?
Oui, bien reçu, le nageur de pointe part à l'instant.
Ok, donc là, le drone vient de décoller, il est en direction de la victime. Tu le vois, parle.
Oui, on le voit, on l'a en visu.
Ok, terminé, on se tient au jus.
Je suis fatigué. À l'aide ! À l'aide ! Ah, je vois le drone qui décolle. Il arrive sur moi, là, à 30 mètres. Il a à peu près 10 mètres du sol. Il cabre sur moi. Il est tout dans le flou. On met l'arrêt à la bouée. Là, elle tombe juste à côté de moi. La bouée se gonfle. Je m'appuie dessus. Ah, je suis sécurisé. Ok, donc là, je vois le sauveteur qui arrive sur moi.
Voilà, nageur sauveteur secouriste. Voilà, je suis là pour vous sécuriser.
Ouais. Voilà. Et là, j'ai le drone qui m'a lancé la bouée, là.
Okay, super.
Et du coup, maintenant, il va falloir que vous me...
Vous allez venir avec moi, et puis on va nager gentiment jusqu'au bord.
Ok, très bien.
Allez, c'est parti.
Ah, ben, vous nagez bien.
Bon, je savais pas que ça se gonfle pas assez vite.
Mais c'est
instantané, ouais.
Dès que ça arrivait dans l'eau, ça s'est gonflé direct.
Et donc il y a une petite loupiote.
Donc là, vous tenez entre les mains la bouée qui vient de vous sauver, qui a été larguée par le drone.
Ouais. Alors ça sert de sustentateur, ouais, effectivement. Ce qui manque à des gens en perdition à l'océan, c'est uniquement d'avoir une possibilité de flotter. Hein. En tant que, on s'aperçoit que les victimes, souvent, elles ont tendance à attendre un sauveteur avec des yeux écarquillés parce qu'elles sont en perdition. Hein. Dès que la victime aperçoit un sauveteur, déjà, voilà, le stress qui baisse et la victime a tendance à, effectivement, lutter encore un petit peu. Mais là, le fait de voir arriver un engin salvateur comme ça qui vient du ciel, hein, la victime, elle ne se pose plus de questions sur le fait que quelqu'un va venir.
Là, Philippe, notre maître nageur sauveteur, qui a eu un malaise dans l'eau et qui a été sauvé, donc... Vous avez piloté le drone pour qu'il arrive au-dessus de lui et vous avez largué la bouée de sauvetage. Mais dans une station balnéaire, dans une situation de crise, lorsqu'il y a une véritable victime, comment ça se passe? Les maîtres nageurs sauveteurs, il faut qu'ils pilotent le drone tout en courant pour se jeter à l'eau, pour aller chercher la victime. Enfin, comment ça se passe?
Dans les faits, dès l'année prochaine, ce sera un pilotage semi-automatique. C'est-à-dire que le chef de poste ou la personne qui sera pilote au poste aura juste à appuyer sur une représentation de la plage pour que le drone parte, respecte ses couloirs de vol réglementaires et aille sur site automatiquement, ce qui permet à la personne de continuer à coordonner les secours, en fait, et derrière de reprendre la main uniquement sur la fin pour affiner et larguer s'il faut larguer la bouée ou non. Et ensuite, il aura juste à appuyer sur un bouton, le drone revient et se posera tout seul au poste.
Je vous présente Monsieur Philippe Saint-Pierre, qui est donc agriculteur et qui s'occupe justement de la question des relations entre les agriculteurs et les chasseurs, la fédération de chasse. Et Monsieur Damien Belon, et on se trouve juste à côté de sa parcelle en maïs. Et c'est lui qui a des soucis avec les sangliers. Et on est sur une parcelle qui est plantée en maïs. Et c'est sur cette parcelle en fait qu'on a, Monsieur Belon, qui a appelé Monsieur Saint-Pierre, a constaté des dégâts de sangliers.
Donc Jean-Philippe, vous appartenez à la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime.
Oui.
Et vous êtes venu avec un équipement de drone et vous allez donc survoler cette parcelle de maïs là.
Oui, on va faire plusieurs vols d'ailleurs, enfin, on va essayer. Pour faire plusieurs séries de photos aériennes. Et puis donc tout à l'heure on rentrera à la chambre pour exploiter tout ça sur ordinateur. Mais là, pour l'instant, il faut déjà se faire les photos.
Donc, dans le coffre de votre voiture,
il y a le matériel qui permet de faire fonctionner le drone. Donc là, vous avez l'ordinateur.
Alors, Jean-Philippe, vous sortez de votre voiture une espèce de valise grise.
Oui, qui contient le drone.
Alors,
c'est la valise de transport et de voyage. Donc, on a le corps du drone.
En fait, c'est un petit avion. Hein.
C'est un avion de type avion électrique, effectivement. La différence par rapport à l'avion normal, c'est que là, l'hélice se trouve à l'arrière. Et, excusez-moi, j'ai une aile qu'il faut que je remonte. Et tout le reste, effectivement, est en polystyrène. Il s'agit de gagner du poids. Et aussi pour des raisons de sécurité, parce qu'un drone léger, si jamais il était amené à tomber, il ferait moins de dégâts qu'un drone plus lourd. Hop là, on va brancher le drone.
Jean-Philippe, je vous vois là, vous êtes en train de pianoter un ordinateur.
Oui, je suis en train de programmer son itinéraire de vol que l'ordinateur va calculer par rapport à la parcelle qu'il est censé survoler. Pour l'instant, j'étais en train de regarder par rapport à l'orientation du vent, l'endroit d'où j'allais le faire décoller et où je vais le faire atterrir.
Oui, parce qu'il y a pas mal de vent hein, là, lorsqu'on regarde les arbres et même le maïs, puis on voit au loin des éoliennes. Elles tournent bien, il y a environ une petite bonne vingtaine de kilomètres heure de vent.
Les éoliennes, c'est mon ennemi mortel, ça. Parce que sur cette parcelle, on a de la chance, il n'y a pas d'éoliennes à proximité. Sinon.
Alors là, vous allez faire décoller le drone.
Oui. Donc en fait, voilà, là, on est à peu près au milieu de la parcelle, c'est d'ici qu'on va faire décoller le drone. Donc l'orientation du vent est importante, puisque je vais le faire décoller face au vent.
Là, vous avez le drone entre les mains.
Là, j'ai le drone entre les mains, je vais le secouer un petit peu pour le réveiller, en fait, pour le faire partir, et vous allez entendre le moteur qui va partir. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc il est en train de monter. Donc là, on va voir un vol qui va se dérouler au-dessus de la parcelle où nous nous trouvons, à une hauteur de vol de 60 mètres. On va retourner au véhicule parce qu'on va pouvoir suivre son évolution directement sur l'ordinateur. Donc moi, ça me sert en fait de télésurveillance, d'une certaine façon, sachant que je dois pouvoir aussi arriver à le contrôler visuellement. Et à partir d'une certaine distance, l'angle d'incidence fait que quand le drone vole à l'horizontale, on ne le voit plus.
Moi, je ne le vois plus, votre drone. Hein.
Ouais, moi, je le vois. Mais j'ai les lunettes de soleil qui vont bien.
Ah oui, alors là, je vois le drone qui est en train de survoler au-dessus du champ. Et qu'est-ce qu'il fait?
Donc là, il a pris
des S au-dessus du champ.
Alors, il ne fait pas des S. Il a pris un virage pour reprendre un itinéraire donc en ligne droite. Et c'est sur ce segment en fait, de trajectoire qu'il va prendre les photos.
Et là, il est juste au-dessus de nous. Là,
ouais, hein. Là, il passe au-dessus de nous.
Il est à peu près à quelle altitude?
Là, il est à 100 mètres.
Ah bah regardez, là, sur la gauche, il y a un rapace qui va l'accompagner.
Qui lui est un peu plus haut. Donc là, on entend le cliquetis des photos qui sont prises par le drone. Et sur l'écran, correspondent en ombrage les fauchés, ce qu'on appelle les fauchés, c'est-à-dire la surface prise par chaque photo élémentaire. Cet appareil ne va pas prendre une seule photo de toute la surface en une seule fois. Il va constituer une collection de photos élémentaires qui donneront une grande photo d'ensemble qu'on appelle mosaïque.
Là, le drone est au-dessus de nous.
Le drone est au-dessus de nous, en fait, pas tout à fait au-dessus de nous. Il est en train de tourner autour du point, de son point de futur point d'atterrissage. Donc, ce qui me permet de voir à peu près où il va tomber, si j'ose dire. Et d'aller le chercher.
Alors là, voilà. Il est en train de...
Là, il va procéder.
Il est en vent arrière, c'est-à-dire qu'il a le vent derrière lui.
Oui, et il va procéder donc à son atterrissage.
Il va atterrir, mais il atterrit tout seul, en fin de compte.
Il atterrit tout seul, tout à fait.
Allez, dernier virage.
Voilà.
Et le drone se met en finale.
Et ça y est.
Voilà, en fait, le drone se pose à plat sur le ventre.
Voilà.
Moi, je ne trouve pas votre drone. Hein.
Non.
Jean-Philippe, ah, ça y est, il est là-bas.
Voilà.
Ouais, il faut bien le repérer, hein, parce que quand les herbes sont hautes...
Mais je peux vous dire que sur certains champs de blé en cours de maturation, j'ai mis des fois 20 minutes avant de le retrouver.
Jean-Philippe, vous êtes pilote de drone
oui.
Ou vous êtes
ingénieur à la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime. Qu'est-ce que c'est en fait votre rôle? Vous êtes un ingénieur agronome qui est devenu pilote de drone.
Oui, dans ce sens-là. Donc en tant qu'ingénieur agronome, je m'intéresse en fait à tous les outils qui me permettent de faire du conseil et de l'interprétation en agronomie. Là, le drone est un appareil qui porte les capteurs et donc qui a démocratisé très fortement l'accès aux informations vues du ciel, qui jusqu'à présent était réservé aux satellites ou aux avions, faisable mais assez cher et avec des conditions et des contraintes pas faciles. Maintenant, on a un outil qui nous permet d'avoir une vue du ciel au jour le jour ou presque.
Là, le drone, il a volé pendant à peu près combien de temps au-dessus du champ?
Là, il a volé à peu près pendant 30 minutes. Et là, il a survolé deux fois la parcelle donc de 7 hectares, de 8 hectares.
On va retourner à la voiture et on va pouvoir déjà voir les premières photos.
Alors on va pouvoir effectivement regarder les premières photos élémentaires.
Bonjour.
On va pouvoir terminer l'étape vol et passer à l'étape traitement d'image.
Voilà, on est dans les couloirs de la chambre d'agriculture.
Donc on va rentrer dans le local où on stocke les drones et où on travaille aussi sur le traitement d'image. Donc vous voyez dans ce local qu'il y a plusieurs ordinateurs. On va sortir les capteurs avec les photos à récupérer.
Voilà. Donc vous sortez une petite carte SD.
Voilà, comme ce qu'il y a de plus classique.
Sur un appareil photo.
Comme sur un appareil photo. Donc on a plusieurs dossiers. On va avoir un dossier sur lequel voilà, vous avez l'ensemble des images. Là, sur la photo aérienne, donc vous avez à l'écran, sous vos yeux, les 329 photos donc élémentaires qui ont été prises. Donc là, on voit à l'aide du portable.
Et alors donc, sur cette partie qu'a survolé le drone, oui. Sur cette parcelle, qu'est-ce qu'on voit?
On va voir, en fait, dans quel état est la parcelle de maïs. Donc on voit tout. On voit les rangs, on voit la régularité des rangs de maïs. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt la partie qui a été attaquée, mangée par les sangliers. Quand on a des zones qui sont assez ombrées, comme vous l'avez ici,
alors là, en effet, sur la partie la plus haute de la photo, on voit en quelque sorte que c'est un peu plus clair. On sent que le maïs est moins serré.
Voilà, on sent surtout c'est que les rangs de maïs ont été attaqués, puisqu'effectivement, ils perdent leur continuité qu'on a sur les autres parties.
Voilà. Donc là, les sangliers
sont venus se balader et sont venus faire une pause déjeuner. À cette échelle-là, vous commencez à distinguer même le parcours du sanglier. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est là où on a toute la puissance informatique, ça va de faire une estimation de la surface, autant que possible, du volume qui a été attaqué par les animaux. Parce qu'en fait, c'est sur cette partie-là qu'on va essayer d'estimer la perte de l'agriculteur par rapport à ses dégâts. Et il y a des seuils au-delà desquels, effectivement, il y a une réelle perte pour l'agriculteur, donc avec une démarche à entreprendre auprès de la Fédération de chasse pour une indemnisation de l'agriculteur.
Vous savez à peu près combien de sangliers se promènent dans cette parcelle ?
En général, on a affaire à une femelle et ses jeunes, voire avec le mâle, qui sont venus faire une balade. Par contre, ce qui peut arriver en termes de dégâts, c'est que quand ils ont trouvé l'endroit intéressant et agréable, ils viennent refaire plusieurs tours pour continuer de s'alimenter. Ils sont comme nous, quand ils ont trouvé un bon coin, ils ont tendance à revenir. Bon, alors là, je pense qu'on a vu pas mal. On va ranger le drone. Je n'aime jamais trop le laisser sorti. Il a bien travaillé. Voilà. Voilà, je vais vous montrer le drone de notre groupe.
Le drone du groupe La Poste. Alors vous l'avez mis derrière une grande vitrine.
Voilà, alors celui-ci est une maquette, grandeur réelle, qui nous a permis de faire des tests de...
Donc on voit en effet, c'est une machine avec circulaire, avec plusieurs rotors. Et dessous,
il y a un paquet avec un dispositif de grippe qui permet de tenir le paquet. Le dispositif, quand il est en fonctionnement, s'ouvre
et se referme comme quatre pinces pour tenir le colis qui peut faire jusqu'à 3 kilos aujourd'hui. Je suis Jean-Luc de France, directeur général de Géopost. Nous testons des machines volantes, appelées drones, pour livrer un colis entre un point de concentration et un point relais dans une zone éloignée. Que ce soit une zone de montagne où on aurait eu des glissements de terrain ou des avalanches, que ce soit on a eu beaucoup cette année et l'année dernière d'inondations en France. Ensuite, nous avons un drone qui porte un colis. Donc c'est quelque chose de bien spécifique. Il faut un drone qui soit capable de porter un colis de 3 kilos à peu près.
Concrètement, pour vous, en tant que postier, comment ça se déroulerait? C'est-à-dire qu'il y aurait un postier qui serait installé devant la base de décollage et d'atterrissage du drone?
Bien évidemment, il faut remplir le terminal et il faut récupérer le colis à l'autre bout. Donc on aura bien évidemment des opérations manuelles. Donc si demain on livrait avec un drone, ça doit être transparent en matière de tarification pour nos clients. Mais à ce stade, on n'en est pas encore à définir un coût opérationnel pour le drone. On fait vraiment de la recherche et du développement. Je pense que dans les quelques années à venir, on puisse avoir quelques lignes régulières bien identifiées dans une zone où nous aurons eu l'autorisation de voler.
3-5 ans.
2-3 ans, nous espérons pouvoir voler, voilà, dans certaines zones bien identifiées. Ensuite, le cadre législatif pourra peut-être évoluer vers une ouverture un peu plus importante dans des zones faiblement urbanisé, on va dire. Mais on n'en est pas encore là.
J'ai lu un article intéressant sur un type, un spécialiste en logistique, qui a fait 5-6 pages d'article sur « On ne livrera jamais de colis par drone ». Ou « Pourquoi on ne livrera jamais de colis par drone ». Et il développe sa thèse en 3 parties. Donc d'un côté, on a un Elon Musk, des vaisseaux spatiaux, des fusées réutilisables qui nous fait rêver de la vie sur Mars. Et de l'autre, on a des gens qui ont le nez sur l'histoire qui est en marche et ils osent vous dire encore, on n'y arrivera pas. Alors, je m'appelle Mustapha Kasbari, je suis le président de la société Atexis qui développe le drone pour le groupe La Poste et le fondateur du centre d'études et d'essais pour modèles autonomes installé ici au domaine du Planet, dans le Var, dans cette magnifique Provence verte.
Alors juste devant vos ateliers, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est difficile à décrire, hein. Vous avez une espèce d'une grande boîte qui fait environ 2 mètres de haut, qui est grillagée, avec au-dessus un filet, un peu comme un panier de basket. Hein.
C'est un peu ça. Juste devant les ateliers, nous avons un terminal de livraison, un espèce de panier. Alors imaginez un panier avec des filets de chaque côté qui permet au drone de venir poser en toute sécurité et de décoller en toute sécurité.
Comment ça se passe? Le postier se rend devant ce terminal et puis il y a un endroit où on peut poser la boîte. Là, par exemple, là, je vois, vous avez une boîte avec marqué dessus Chronopost.
Il faut imaginer que sur un site isolé, on va pouvoir installer un terminal. Et donc l'opérateur va déposer le colis Chronopost. Et puis le drone va décoller à partir du terminal pour aller rejoindre un autre terminal. Et à partir de là, le drone va pouvoir accueillir le colis, décoller, parcourir une certaine distance et atterrir dans un autre terminal de livraison en face sur un nœud d'un réseau de livraison par drone.
Donc là, le drone est sur la partie supérieure du terminal de dépose du colis et de réception du colis. Hein.
Tout à fait, prêt à recevoir un colis en l'occurrence puisqu'il n'est pas encore chargé.
Alors, l'opérateur va allumer un terminal de livraison. Donc il va taper son code qui lui permet d'avoir le droit d'utiliser ce terminal, déposer son colis. Comme vous pouvez le voir, le terminal clignote pour signaler qu'il est prêt à fonctionner.
Donc là, vous allez appuyer sur le clavier.
Tout à fait. Là, on va composer son code et activer le chargement du drone par le terminal.
En effet, là, il y a un paquet qui, via un système de tapis roulant, s'est accroché sous le drone.
C'est ça, le colis est amené avec un chariot via un tapis roulant sous le drone. Il est plugué dans le drone. Le drone a fermé les portes et le chariot va venir libérer le drone pour permettre son décollage. Là, on voit le drone sur son terminal de décollage et d'atterrissage. Le drone s'est initialisé, a mis les moteurs en route. Et puis, les moteurs vont accélérer progressivement jusqu'à mettre le drone en sustentation à quelques mètres au-dessus du terminal de livraison. Sous le drone, on voit que le colis est bien accroché par des pinces. Et le drone va s'élever jusqu'à une altitude de sécurité, point à partir duquel il va prendre son cap pour partir en mission vers le point de livraison. Donc on voit au-dessus de nos têtes le drone en stationnaire, bien que le vent soit fort. Le drone secoue un peu, mais il est parfaitement en stationnaire au-dessus de nos têtes. Et puis il va pivoter au lacet vers la droite pour prendre son cap et partir sur sa route, sur sa mission de livraison de colis.
Là, aujourd'hui, il y a un peu de mistral. Ça veut dire que ce drone peut voler par n'importe quelle météo.
Alors celui-ci, ce prototype-là, qui s'appelle Génération 2, peut voler jusqu'à 30 km/h de vent. Le drone va monter jusqu'à 70 mètres. À 70 mètres, il va prendre sa route de croisière et survoler les obstacles naturels ou artificiels un peu plus haut, c'est-à-dire à 100 mètres.
En vitesse de croisière, il est à quelle vitesse ?
En vitesse
pour aller d'un point A à un point B.
En fait, en vitesse de croisière, il va naviguer entre 25 et 50 km heure. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir le drone du groupe La Poste disparaître derrière la crête. On le voit descendre petit à petit sous l'horizon. Et là, on se dit, waouh, quelque part, on le voit plus. On ne sait plus ce qui se passe et on ne peut se fier qu'à notre station sol, donc l'écran qu'on a au sol, pour savoir où est le drone, comment il se comporte, et finalement qu'il va s'éloigner sur plusieurs dizaines de kilomètres, assez proche du sol, quelque part, 75 mètres, et sans que plus personne n'ait un œil dessus.
De manière automatique et sans pilote. Là, il vient de se poser.
Le drone est capable, complètement automatiquement, d'assurer le décollage, le transfert du colis, l'atterrissage et la livraison de ce dernier. Il est capable de repartir automatiquement et de revenir à son point de départ.
Quels sont les freins actuellement à la livraison de colis par drone ?
La résilience du public, l'envie du public de voir des drones qui survolent sa maison, qui survolent sa tête. Et d'autre part, le cadre législatif qui est en cours de construction.
C'est-à-dire qu'en ce moment, en France, on ne peut pas réaliser de la livraison par drone avec un drone comme celui-ci ?
Non, aujourd'hui en France, le cadre législatif permet des expérimentations, mais ne permet pas encore un déploiement commercial de la livraison par drone, en particulier en milieu urbain. On a un parachute qui évite les dégâts causés aux tiers, mais encore une fois, on ne passera pas à côté, tôt ou tard, alors peut-être pas à 3 ans, peut-être à l'horizon des 10 ans, mais du survol des zones habitées par des drones. C'est le sens de l'histoire.
Donc là, concrètement, c'est pas possible de partir du deuxième bâtiment, sommet de la pointe, et de descendre puisqu'on a les fils et l'arbre. Donc là, la réalité du terrain nous impose de changer l'ordre de vol. Donc on va partir de devant les fils à 3 mètres du sol et on va monter jusqu'au sommet pour faire le travelling après.
Là, on est à l'extérieur, devant des bâtiments en briques rouges, assez imposants, et qui sont plus ou moins à l'abandon.
Et on n'a pas accès à la zone, puisqu'il y a un portail et il y a des grillages. Si on veut faire une similitude avec une station concrète, on est dans une zone inondée, il y a une tempête, il y a des arbres qui sont tombés sur des maisons, sur des toitures. Et bien, on se met dans une zone dégagée, accessible en voiture et à pied, et on décolle d'ici, et justement, on peut aller voir l'état des dégâts, s'il y a des gens, s'il y a des choses qu'on ne voit pas, du sol. Le drone va nous servir à ça. Donc là, c'est une sorte de simulation de genre de situation qu'on va faire.
Donc le drone est au sol.
Là, il est en train de connecter sa batterie.
Concrètement, pendant le vol, l'opérateur, on le laisse tranquille, on ne lui parle pas. Moi, je lui parle. Et on est tous derrière lui.
Arnaud Bazin, vous êtes le directeur de cette école de drones, Drone Center, qui forme en fait des futurs télépilotes de drones. Là, le drone, il est en vol stationnaire, il avance un peu. Ce type d'exercice se fait au bout de combien de temps lors d'une formation de pilote de drone?
Voilà, lors de notre formation initiale sur les 10 premières journées, ça sera plus de l'acquisition de prise en main avec des exercices concrets, savoir faire des carrés, des spirales et aussi avoir une prise en main sur des mouvements de prise de vue artistique pour mettre en valeur un patrimoine ou faire du suivi de personnes lors de scènes cinématographiques par exemple. Le secteur drone, il y a un véritable marché qui est réellement émergé. Il y a des vraies attentes, des appels d'offres qui sortent. Mais c'est comme toute offre d'emploi. Ce sont les meilleurs qui l'emportent, ceux qui ont de l'expérience, ceux qui sont intéressés par le sujet, qui pilotent au quotidien. Et après, on ne parle même pas de toute la partie post-traitement. Votre client final, lui, ne va pas vouloir 2 heures de rush, par exemple. Votre géomètre, il ne voudra pas 500 photos sur son bureau. Lui voudra un plan avec ses calculs de cubature, le volume de ses tas de granulats, par exemple.
Là, le drone est relativement éloigné de nous. Hein. Il est au-dessus de ces deux bâtiments en briques rouges qui sont à l'abandon.
Oui.
Il est à peu près à quelle distance?
Il doit être à peu près à 75 mètres du pilote. Donc je te laisse te déplacer. Maintenant, on va passer sur l'autre bâtiment. On va inspecter la façade où on était tout à l'heure. Donc tu recules et tu vas un peu à droite. Donc tu penses, à chaque fois que tu t'approches pas trop parce que quand le drone est sur la brique rouge, on le voit plus. Donc essaie de l'avoir en visuel en permanence et de gérer le visuel et l'écran. Voilà, très bien. Et tu t'arrêtes. Ok, et maintenant on vient poser.
Regardez, il y a des oiseaux qui volent à côté du drone.
Ouais, c'est des rapaces. Alors ce qui est marrant, c'est quand on vole en été dans des champs, des clairières comme ça, et qu'il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup d'abeilles et de bourdons. Et quand on décolle les drones, on a des essaims de bourdons qui viennent et qui tournent autour. Ils doivent être attirés, ça doit être des femelles qui pensent que c'est des mâles alpha, donc elles viennent. Bon, il est gros celui-là, il est...
Autre utilisation du drone civil qui modifie une profession, la désinsectisation. Nous sommes à Saint-Perdon, dans le département des Landes, et dans le jardin d'une maison où on se trouve actuellement, au sommet d'un arbre, un nuisible redoutable. Le maire de cette commune a demandé à Étienne Roumaillac de détruire un nid de frelons asiatiques.
Bon, on va aller voir donc un nid de frelons asiatique. Très joli, dans un conifère, et qui est abordable que par drone. Donc vous voyez, par exemple, là on a un beau conifère, c'est un cèdre bleu, je crois.
Il est très haut, il fait quelle hauteur?
Celui-là, il doit faire 17 mètres de conifère, je pense. Hein. Et là, quand vous arrivez ici, regardez bien tout à fait en haut.
Ah oui, tout en haut, quasiment à la pointe du sapin.
Voilà.
On voit une espèce de grande boule beige clair.
Tout à fait, c'est ça, c'est le frelon asiatique. L'asiatique est vraiment nuisible.
C'est-à-dire qu'il attaque les abeilles.
Il attaque les abeilles et l'écosystème qui va autour. Parce que le frelon asiatique, quand on analyse le bas du nid, c'est-à-dire la décharge, on retrouve des thorax d'abeilles, mais on retrouve aussi des thorax de sauterelles, on retrouve des thorax d'araignées, on retrouve beaucoup de papillons, des mouches véreuses, etc. En fait, il est opportuniste, il mange de tout. Donc là, on va aller chercher le drone, on va le mettre en route. Allez, donc on va sortir monsieur le drone Hornet.
Par contre, on voit une espèce de grande tige horizontale par rapport à la machine volante.
Ça me permet justement, donc c'est la projection de l'insecticide.
Donc là, vous êtes en train de mettre le produit, hein, l'insecticide,
dans le
réservoir
dans le réservoir du drone. Voilà. Sécurité, on se recule un tout petit peu, s'il te plaît.
Donc là, le drone va monter jusqu'en haut du sapin.
Ouais, correctement, on doit s'élever d'ailleurs.
Donc là, je vais me positionner au niveau du nid. Alors, actuellement, le drone est, on va dire, à une dizaine de mètres.
Là, pour moi, il est à 6 mètres, le drone.
6 mètres du nid de frelon.
Voilà. Alors vous pouvez voir que là, il y a quelques frelons qui commencent à venir gentiment. Voilà.
On voit des frelons hein, qui sortent du nid et qui sont en train de tourner autour de la...
Je vais lancer le produit maintenant.
Du drone. Alors le drone est en train de projeter l'insecticide fini, sur le nid de frelons.
L'intervention est terminée. Et là, on a la bestiole qui revient toute seule et qui se repose à son point de démarrage. Donc voilà, là, le nid est traité. Donc en fait...
On voit, ça dégouline.
Ça dégouline de produits.
Ça dégouline de produits sur...
Sur le nid. C'est des insectes très propres. Ils se lavent tout le temps. Et dès qu'ils ingurgitent le produit, c'est réglé. Après, il faut compter sur un gros nid comme ça, enfin un nid qui commence à être de taille tout à fait respectable, comme je vous dis, il faut compter 2 heures pour qu'il n'y ait plus du tout de frelons dessus.
Auparavant, comment vous procédiez, Étienne, pour détruire un nid de frelons asiatiques comme celui-ci haut ?
Pour un nid comme ça qui est coincé dans un conifère, c'est-à-dire qu'on montait au nid et on injectait une poudre insecticide à l'intérieur. Donc en fait, vous arriviez à 2 mètres de l'arbre, déjà, vous aviez tout le nid qui était à moitié dehors en train de vous regarder d'un sale œil. Et on prenait beaucoup de piqûres. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a plus grand-chose qui vole. Ça bouge un peu, on va aller le regarder à la longue vue si vous voulez. J'ai une longue vue. Vous voyez, là, on voit quasiment plus d'activité. Là.
Il y a moins de frelons qui tournent autour du nid. Hein.
Ouais, on en voit quelques-uns, ça c'est les frelons. Alors celui-là, si on
peut... Il y en a un qui vient de partir.
Oui,
là.
Mais alors comme vous avez pu voir, il a fait des cercles comme ça. Et à mon avis, il a un problème neurologique.
Pour conclure ce reportage sur l'évolution et l'usage des drones civils, nous allons rencontrer Michel Polacco, qui est journaliste à France Inter et spécialiste aéronautique. Il est également l'auteur de l'ouvrage « Drone, l'aviation de demain » édité chez Priva. Nous avons rendez-vous sur l'héliport d'Issy-les-Moulineaux dans le département des Hauts-de-Seine. C'est sur ce terrain qu'au début du XXe siècle, de grands aviateurs comme Gabriel Voisin, Roland Garros ou même Henri Farman firent leurs premiers bonds avec des machines volantes. On les appelait les faucheurs de Marguerite. Michel Polacco, ici à Issy-les-Moulineaux, quasiment dans Paris, est-ce que ça serait possible, à proximité de cet héliport, de voir des drones de loisirs ou professionnels voler ?
Alors, des drones de loisirs qui sont vendus en tellement grande quantité, on en a vendu près de 400 000 en France l'année dernière, ils sont vendus à des gens à qui on ne donne aucune formation, qui ne connaissent pas la réglementation de l'espace aérien, qui ne savent pas qu'on n'a pas le droit de faire voler les drones dans la proximité des aéroports, qu'on n'a pas le droit de les faire voler au-dessus de 150 mètres, c'est-à-dire dans ce qui s'appelle l'espace aérien. Et puis depuis la réglementation qui a été votée par l'Assemblée nationale cette année au mois d'octobre, il va y avoir une formation systématique pour les pilotes de drones qui sera sur Internet. Et donc les gens qui exploiteront des drones de plus de 800 grammes, donc c'est quand même pas très gros, seront obligés d'aller sur Internet pour apprendre les prémices de ce qu'on peut appeler la réglementation de l'espace aérien et connaître un peu leurs droits et leurs devoirs. Mais en revanche, on a un souci, c'est que la multiplication des drones dans le ciel, c'est un problème qu'on ne sait pas encore résoudre.
Là, il y a un hélicoptère du SAMU qui est en train de se poser, Michel Polacco. S'il y avait un drone... de la taille, grosso modo, de cette petite table qui est en face de nous, hein, c'est une table basse. S'il volait dans son environnement, est-ce que le pilote le verrait ?
Alors, peu probablement, hélas. C'est très difficile de voir les drones. Très, très difficile. Alors là, cet hélicoptère, il fait un peu de bruit, donc on a un peu de mal à s'entendre. Et c'est tout simplement parce que je pense qu'il va rejoindre un parking un peu plus éloigné. C'est un service ambulancier médical urgent. Et donc il doit être en train de prendre position pour pouvoir charger un malade, un blessé. Et à bord, il doit y avoir non seulement un pilote, mais une infirmière, un médecin régulateur. Évidemment, vous voyez, c'est des missions qu'on ne peut pas encore confier au drone. Ça, c'est certain. En revanche, le pilote, que ce soit un pilote d'avion ou d'hélicoptère, il a très peu de chances de voir un drone qui lui arrive dessus.
D'abord, quand vous pilotez un avion de tourisme ou un hélicoptère, c'est un risque que vous prenez en compte, vous, en Michel Polacco ?
Alors, c'est pas un risque qu'on peut prendre en compte quand on pilote un avion ou un hélicoptère, que ce soit un petit avion ou un gros, ou un petit hélicoptère ou un gros. Donc non, hélas, pour l'instant, on est dans une situation de risque, car les systèmes de détection qui abordent des avions les plus élaborés ou qu'il y a dans les centres de contrôle ne peuvent pas voir les objets qui font en gros moins de 2 mètres, 2 mètres 50 d'envergure et qui sont construits dans des matériaux qui ne sont pas métalliques, par exemple.
Alors là, Michel Polaco, il y a un hélicoptère de la sécurité civile qui vient de se poser. Tous les hélicoptères de cet héliport font du transport de passagers. Est-ce que on peut imaginer, dans un futur, du transport de passagers par drone, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait absolument pas piloter, qui s'assied dans une machine multirotor, qui décolle de manière automatisée, qui va d'un point A à un point B?
Alors on peut imaginer parfaitement quelqu'un qui monte dans une machine et il n'y a absolument aucun pilote à bord et aucun savoir-faire de pilotage. C'est quelque chose qu'on sait faire depuis 50 ans. On a su faire le tour de la Terre à la navette Buran, on a su faire décoller des Boeing 707 sans avoir aucun équipage à bord. Simplement, le taux de sécurité qu'apporte l'homme par rapport au taux d'insécurité qu'il peut apporter dans certains cas, il n'y a pas photo. L'homme, c'est un facteur très important de sécurité. Donc, si vous voulez, vous aurez toujours le droit, si ça vous fait plaisir, de monter dans une machine en sachant que s'il se passe quelque chose de mal, vous ne saurez rien faire et il n'y aura personne pour vous aider. Je ne suis pas convaincu qu'on est déjà arrivé à l'époque où des gens voudront monter dans des avions, dans des hélicoptères ou dans des drones dans lesquels il n'y a pas de pilote. Et comme passager, je vais rester très probablement et pour un certain temps encore favorable à monter à bord de machines dans lesquelles il y a encore un opérateur humain auquel je peux m'adresser et à qui je peux faire confiance pour joindre sa sauvegarde à la mienne. Voilà, quelqu'un qui partage mon sort. Ça me rassure de savoir qu'il y a quelqu'un qui partage mon sort à bord de l'aéronef.
La foire du drone, c'était un reportage de Stéphane Combe, prise de son Éric Damaggio, mixage Claire Levasseur, réalisation Violaine Ballet, assistée de Marion Philippe. Après le journal de 10h, vous retrouverez Christophe Barrère avec sa série Les Grands Discours. Aujourd'hui, le 10 mai 1994, l'investiture de Nelson Mandela, magnifiant une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde. À la semaine prochaine.